Exposé, présenté dans le cadre de la quatrième rencontre estivale du groupe de professeurs de philosophie chrétien de la conférence Sainte Catherine d'Alexandrie sur le thème de la nature. Emmanuel Plot, ingénieur et docteur en sciences sociales et sciences de la connaissance. Le concept de nature au sens de nature humaine chez Kierkegaard et Jean Bechler dans son articulation avec la gestion des écosystèmes.
Alors, j'ai imaginé un sous-titre qui pourrait être celui-ci, la vache sphérique. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cela ?
Non.
Bon, je suis obligé de commencer par l'histoire. Alors, je la tiens, cette histoire, d'un livre de Julie Gebel, qui est une philosophe aussi, ingénieure, d'abord en physique et philosophe des sciences, et qui raconte dans ce livre une histoire que je ne sais plus si c'est réel ou si c'est totalement inventé. Je pense que ça doit être réel. Un ensemble d'éleveurs de vaches, de vraies vaches, laitières, ont fait appel à un universitaire parce qu'ils avaient une difficulté de gestion. Je ne sais pas exactement quelle était sa difficulté de gestion. Et en tout cas, l'universitaire a réfléchi, est venu sur le terrain et a rendu un rapport. Et le rapport commence par « Soit une vache sphérique ». Voilà. Moi, je vais tenir cette notion de vache sphérique tout au long de mon exposé parce que, d'abord, je trouve ça extrêmement drôle, mais je crois que ça révèle beaucoup de choses. Première partie, je vais annoncer mon plan. Je n'ai pas trop l'habitude de faire des exposés, encore moins d'annoncer mon plan. Alors, j'ai vu que vous le faites, vous avez tous fait ça, je fais pareil.
On nous a traumatisé.
Trois parties.
En
trois parties.
C'est le meilleur.
On nous a traumatisé, c'était un coup de fouet.
À l'intérieur, je n'ai pas subdivisé vraiment, mais il me faut quelques années quand même. Donc, que nous montre cette notion de vache sphérique? Deuxième partie, que nous cache, c'est bien quand même, que nous cache cette notion de vache sphérique, et on va voir que quand même ça pose problème, cette vache sphérique, donc comment on s'en sort, hein. Et donc la troisième partie, ça sera que faire, non pas contre, mais avec la vache sphérique, on en aura quand même besoin. Alors, ce que ça nous montre, je pense d'abord, c'est que les modélisations scientifiques sont bien loin du réel. Et ça, je crois qu'il faut le marteler, parce qu'on a tendance à croire, je crois, un peu trop que l'objectivité est dans les sciences. Ça ne veut pas dire que les sciences n'ont pas un rapport à l'objectivité. Mais la science va prélever quelques paramètres, va conduire après à élaborer des lois qu'on va transformer après en modèles pour les appliquer, et puis à idéaliser fortement, à déformer même les lois, à introduire des fictions, non pas au sens de Finger et de la littérature, mais carrément des paramètres faux pour pouvoir réaliser des calculs, pour pouvoir prédire. Et le processus donc des modélisations scientifiques, quelques éléments de la réalité qui sont saisis, qui semblent avoir une correspondance suffisante avec les phénomènes observés, mais ce sont quand même, je pense, des représentations qui sont bien loin du réel. La notion de vache sphérique l'indique, ne pas l'oublier. Alors qu'est-ce que ça nous montre également? C'est que les approches de gestion sont également bien loin du réel. Et là, on rentre plus dans mon domaine. Alors oui, dans l'exposé, il y a des choses assez simples, très simples pour vous. Peut-être, je vais aller très vite aussi sur des choses qui sont relativement simples pour moi. On n'est pas tout à fait du même, entre guillemets, monde, mais vous m'arrêtez si jamais ça ne matche pas. Toujours est-il que là, les approches de gestion sont d'autant plus éloignées du réel qu'elles simplifient ce que les sciences leur apportent. Parce que c'est quand même très compliqué de gérer des vaches sphériques. C'est quand même un paradoxe, mais c'est vrai. Donc en fait, la gestion, et surtout jusqu'à maintenant, il y a une inflexion maintenant dans la réglementation, tente à gérer des prescriptions plus ou moins moyennés, qui doivent à peu près fonctionner dans une majeure partie du temps et construire des normes. Je trouve que le code de la route peut permettre de faire sentir cela. Vous êtes dans un village, vous le traversez, vous êtes à 50, vous respectez. Éventuellement, vous avez des dodanes, vous êtes à 30. Et puis, vous sortez du village, et là, il n'y a plus de maison. Mais en fait, vous ne savez pas que vous êtes encore dans le village. Donc, vous accélérez, vous dépassez, vous êtes à 70, et là, paf, le flash. Et là, juste après, vous voyez le panneau sorti du village. Et vous vous dites quand même, c'est exagéré. Oui, mais ça paye bien. Toujours est-il que, voilà, la réglementation, c'est 50 dans un village. Ça n'a aucune justification quand il n'y a plus de maison, quand il n'y a absolument plus personne, que vous êtes déjà dans les champs et que vous allez après rembrayer sur 80. Mais on peut vous flasher et on peut vous mettre en défaut à cause de cela. Ben la gestion, ça procède comme ça. Et heureusement, ce n'est pas trop, trop grave sur les codes de la route. Faut qu'on fasse attention. Ça peut être beaucoup plus gênant dans l'administration des entreprises. Et je crois que si vous voulez faire râler des entrepreneurs, notamment dans la gestion des risques qui est mon domaine, la gestion des risques technologiques, c'est-à-dire liés aux substances dangereuses non nucléaires, c'est également les barrages et les transports de matières dangereuses, eh bien, vous parlez de normes, vous parlez de réglementation, vous parlez d'inspection et d'inspecteurs. Et là, vous savez, tout le monde s'enflamme. Pourquoi ? Ben parce que ils ressentent bien ce phénomène de prescription de moyens et qui est totalement exaspérant. Alors, c'est également le cas pour les écosystèmes. Notamment lorsque, alors là je connais un peu plus ce domaine, lorsqu'on considère, là où je travaille, à l'Institut National des Risques Industriels et leurs effets pour l'environnement, eh bien, lorsqu'on considère la pollution accidentelle des écosystèmes, alors ça c'est vraiment, c'est pas la pollution chronique, c'est la pollution en cas d'accident, ou la pollution en cas d'un dysfonctionnement de l'installation industrielle. Donc, il y a une méthode à l'INERIS, là où je travaille, qui a été élaborée, et dans cette méthode, on a dit, ben, on va essayer de caractériser les écosystèmes pour savoir ce qui est important de polluer ou pas polluer, parce qu'en fonction de l'importance de l'écosystème, on va pouvoir calculer un indicateur de gravité qu'on va mettre en perspective de du risque, et ça fera un indicateur de criticité qui permettra finalement de dire à l'industriel, là, il doit investir. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'un écosystème important ? Pas dans la gestion, eh bien, on va considérer que c'est important quand c'est un espace protégé. Ah, facile. Bon, mais ça veut dire qu'on a le droit de polluer le reste ? Ben aujourd'hui, là, la méthode, c'est ça. Mais parce que c'est vachement facile de dire un espace protégé, ça doit être important, autrement ça ne serait pas protégé. On ne sait pas pourquoi il est protégé, d'ailleurs. En fait, il y a plein d'espaces protégés pour différentes raisons. Ça peut être des raisons touristiques aussi. Par contre, on va avoir des trames vertes, par exemple, ou des trames bleues, qui sont des corridors de migration, qui, eux, ne sont pas des espaces protégés qu'on va pouvoir polluer allègrement. Eh oui, messieurs, c'est comme ça qu'on gère. Donc, ça pose problème. Ça pose problème. Ce sont des côtes mal taillées que ces approches de gestion et la vache sphérique est à l'origine de ces problèmes. Alors, deuxième partie. C'est quand même pas mal d'annoncer le plan à l'avance. que nous cache, hein, ça c'est que nous montre les vaches sphériques, que nous cachent maintenant les vaches sphériques. Eh bien, les vaches sphériques nous cachent les vaches. C'est bête à dire, mais c'est très important. Hein, et on en discutait, Christian, des vaches. Qui a fait meumeu ? C'est Eric qui a fait meumeu tout à l'heure. Non, c'était...
Moi, bon, c'était hier.
C'était hier, voilà. Chacun, chacun a son jour de meumeu. Il y a des vaches sacrées, donc qui sont complètement ignorées par la vache sphérique. Hein. La vache stylisée n'existe pas dans le réel. Et donc, il y a bien une partie du réel de la vache qui ou des vaches, des individus vaches, qui sont complètement ignorés dans la gestion et dans la science. Ça nous cache autre chose, ça nous cache la relation aux vaches. Alors, c'est peut-être pas tout à fait pareil que les vaches, je souhaitais le noter. Je pense qu'il y a la relation aux vaches qui peut être cachée si jamais on substitue le réel. Si on substitue la vache sphérique au réel, ça nous cache en fin de compte, peut-être, l'altérité de la vache. Alors, deux niveaux dans cette altérité, et après je passerai à la troisième partie. Premier niveau, alors ça vient pas de moi, ça vient de Marc Ougnadi, un philosophe un peu stressé, je pense quand même, de Belgique, qui dit, voilà, d'une manière générale, la technoscience, surtout avec le numérique, tente à s'interposer entre nous et le monde, la nature. Et ça, c'est extrêmement dangereux, d'autant plus que le numérique est à la main d'entreprises privées. Donc lui, il tire grosse sonnette d'alarme par rapport à ça. D'autant plus, dit-il, qu'il n'y a pas encore de contre-pouvoir à la hauteur de l'enjeu. Voilà. Donc, c'est vrai que l'altérité, quand, à cause de mauvais professeurs, peut-être, je ne sais pas, on a oublié que les mathématiques n'étaient qu'une représentation très particulière du monde et bien loin du réel, peut disparaître, et que quand on joue trop aux jeux vidéo ou que on est trop dans une finalement dans un monde comme ici, dans cette superbe maison, on est loin de la nature, et donc il y a quand même une distance, hein, on est quand même totalement pétri de technosciences, nos vêtements, nos ordinateurs, le stylo, l'encre, etc. Il y a quand même une distance qui nous coupe cette altérité. Quelque chose qui me semble plus grave pour moi et qui me marque en fait personnellement, ou qui m'interroge toujours, qui ne cesse de m'étonner, c'est que quand on est avec les vaches sphériques, eh bien, on est avec soi-même. Et c'est hallucinant la capacité qu'on a de rester avec soi-même et de vivre plutôt avec, et de penser, de sentir avec des vaches sphériques dans nos représentations que dans l'altérité de la relation. Et je dirais, moi, qu'on est dans nos rationalités au sens très large, de l'équipement qui permet à nos subjectivités d'appréhender les problèmes objectifs qui se posent à nous, qu'on ne peut pas ne pas se poser, et de construire des solutions subjectives plus ou moins objectivement valables. C'est comme ça que je verrais cette rationalité. Moi, c'est ce monde-là dans lequel... qui est signifié par cette notion de vache sphérique, dans lequel on reste. C'est une rationalité qui intègre à la fois l'aspect sensible, notre intelligence, notre sensibilité, notre intelligence et notre volonté. Je crois que c'est le lieu, j'ai l'impression, il n'exprime pas exactement comme ça, mais quand même, c'est comme ça que je me fais la représentation, c'est le lieu du désespoir chez Kierkegaard. Ce monde de notre monde, finalement, ce qu'on arrive à construire avec notre rationalité est le lieu de notre désespoir. Si jamais les vaches sphériques nous cachent l'altérité et nous enferment dans notre monde, eh bien, nous sommes des désespérés en puissance, qui s'ignorent plus ou moins, évidemment. C'est pas mal en soi la rationalité chez Kierkegaard, ni pour moi, bien évidemment. C'est notre nature, mais il faut la connaître et la reconnaître pour ce qu'elle est. Il faut en prendre la mesure, je pense, qu'il faut, et ça sera le lien vers la troisième partie, vers la solution, il faut reconnaître les limites de notre fonctionnement. Et c'est l'altérité est très intéressante pour ça, parce qu'on est en relation, mais on est en relation avec quelque chose de différent de nous, et pas avec des vaches sphériques. Et c'est cette condition pour plonger à travers notre moi, nous dit Kierkegaard, vers notre créateur, pour prendre conscience de notre rapport d'altérité avec Dieu. C'est une condition aussi, c'est comme ça que je le lis, du moins c'est comme ça que je m'en souviens, pour accepter que l'impossible, selon notre raison, soit du possible de fait pour Dieu. Il insiste notamment là-dessus pour dire à quel point il est difficile de reconnaître les miracles ou ce qui nous arrive dans leur dimension de transcendance, parce que si jamais on est tout partout et qu'on ne reconnaît pas les limites, nos limites et ce qui nous dépasse, on est en face et puis on n'arrive pas à saisir la transcendance et le plus-être que l'on expérimente. Et puis, il faudrait qu'on puisse aussi, soyons fous, aller jusqu'à l'espoir de se guider comme Abraham, dans une foi, d'une relation de foi à Dieu, et donc de quitter même l'éthique du général, construite par notre raison, et d'agir sur la seule base, principalement guidée, de notre relation à Dieu, qui est spécifique, incompréhensible, impensable, puisqu'on procède nécessairement dès qu'on pense par abstraction, prélèvement. Voilà, notre singulière individualité ou non sphérique où Dieu nous parle. Alors, cette substitution dangereuse qui s'opère entre la vache sphérique et la nature, qui cache d'autant plus Dieu, me semble-t-il, et moins le fait des scientifiques, chercheurs, que des ingénieurs et des gestionnaires, je crois. Alors évidemment, on ne va pas faire de généralité. Mais les scientifiques chercheurs savent qu'ils sont dans le faux. Et savent que progresser, c'est progresser vers le vrai dans le faux. Les ingénieurs, dans le monde de l'ingénieur, je pense où je vis, dans le monde du gestionnaire où je vis, je crois qu'on a une grosse tendance à oublier cela et à croire que le monde est sphérique. Alors, que faire, troisième partie, non pas contre, mais avec la vache sphérique? Eh bien, un principe pour la solution, je pense, c'est de se souvenir que ce n'est pas une vache. C'est bête, hein, mais c'est une solution qui, je pense, a énormément de force. Alors, se souvenir que ce n'est pas une vache suppose une nouvelle approche de gestion. Et paradoxalement, je crois que le numérique va nous aider. Je vous ai dit que la gestion procédait par une dégradation des connaissances, de manière à pouvoir définir des prescriptions. Je pense qu'il faut garder au sein de la gestion au maximum la dynamique même de la génération de la connaissance. Donc il faut gérer à travers les prescriptions ou pour construire les prescriptions des modèles et les modèles scientifiques actuels avec la dynamique d'amélioration des modélisations. Ça ne peut pas se faire en termes de gestion sans outils, donc il faudra des modèles numériques. Je pense que la numérisation des modèles scientifiques seront les outils de demain. Alors, la numérisation des modèles scientifiques pour lutter contre les prescriptions de moyens, mais aussi pour garder la trace des hypothèses et des processus d'idéalisation, pour se souvenir que les vraies vaches ne sont pas sphériques. La réglementation française, la réglementation européenne d'abord, la réglementation française, qui évolue, du moins par rapport à la gestion des risques, notamment environnementaux, d'une prescription de moyens vers les prescriptions d'objectifs, va dans ce sens-là. Mais c'est une vraie révolution. Si l'on veut continuer l'exemple sur les écosystèmes, qu'est-ce que c'est que de ne pas considérer qu'il y a des écosystèmes polluables parce que non protégés, des écosystèmes à ne pas polluer parce que protégés? Si on veut quitter cela, on va considérer quoi? On va considérer que tout écosystème, a priori, est important. Donc on quitte l'indicateur d'importance. Ce qu'on va considérer, c'est la capacité d'absorption des pollutions par les écosystèmes. Et à partir d'un moment où il y a un seuil de dépollution impossible, ou alors même une capacité d'absorption inabsorbable, à ce moment-là, il y aura une limite. Mais ça suppose quoi ? Ben, ça suppose de savoir ce qui pollue, ça suppose de connaître les écosystèmes. Ça suppose d'avoir un double indicateur, à la fois sur la substance polluante et sa dangerosité. Vous savez qu'il y a, et ça fait partie du problème de gestion, il y a tellement de substances qu'on ne peut pas savoir quelle substance pollue quoi. Il y a tellement de combinaisons entre substances qu'on ne sait absolument pas ce qui se passe. La plupart du temps, je suis enregistré, il faut que je me méfie. En tout cas, il y a quand même... On ne peut pas piloter la pollution par les substances dangereuses qui polluent. C'est ça qui est important à retenir. Et ça suppose de connaître les écosystèmes, donc. Ça suppose de piloter à partir d'une connaissance des écosystèmes. Et bien, vous savez quoi? C'est nouveau en France. C'est excellent. Ça veut dire quoi? Ça suppose, et vous voyez, ce petit changement, on passe d'une gestion prescriptive sur la base de vaches sphériques, ou alors de, on, si c'est un système protégé, un écosystème protégé, et bien à ce moment-là, on ne pollue pas, le reste, on peut le polluer, à on essaie de comprendre la dynamique des écosystèmes et les problématiques de pollution afin de pouvoir gérer. Allez. Donc on modélise les écosystèmes. Ben ça, c'est une révolution totale, parce qu'on ne sait pas ce que c'est exactement toujours ce qu'un écosystème. Et surtout, ça suppose que les industriels travaillent avec les responsables des territoires. Et vous savez ce que c'est qu'un territoire? Un territoire, c'est des millefeuilles. D'accord. Donc c'est des réglementations européennes, territoires européens, qui passent après dans la réglementation nationale, après qui sont normalement traduites au niveau, comment on appelle ça, régional, et puis après qui, généralement ça passe la sphère départementale, ça va directement sur les comités de communes, qui ont des compétences nouvelles, et il y a des lois, et c'est récent tout ça, hein, c'est depuis 2015 qui donne la bonne autre, enfin bref, il y a beaucoup d'évolutions positives, mais et ça suppose que les comités de communes s'approprie vraiment cette logique et puis apprennent à découvrir les écosystèmes de leur territoire. Voilà. Et là, il y a plein de problématiques parce que c'est hyper compliqué. On fait ça pour l'eau. On fait ça pour l'eau parce que c'est sanitaire, problématique sanitaire. Les écosystèmes, c'est pas directement problématique sanitaire. C'est pour ça que la notion d'altérité est importante là, parce que il y a la grosse problématique de le changement climatique, et puis on sait très bien que la problématique de biodiversité, c'est la grosse vague qui vient par ailleurs, par après, notamment impactée par l'évolution du climat. Je ne sais plus où ce que je voulais dire, parce que c'est une belle phrase. mais globalement, sur un territoire, les territoires que je connais, ils vont en France, même le territoire de notre ancien Premier ministre, au Havre, les territoires n'ont jamais investigué leur écosystème. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un écosystème chez eux. Ils ne savent pas comment il va évoluer. Et donc, ils savent pas, n'ont pas d'indicateur de pollution. Dans les cours d'eau, c'est fait, et notamment par l'INERIS, on a des poissons indicateurs de pollution. Donc, on va repérer un certain nombre de poissons, faire un état zéro, et puis on va surveiller ces poissons-là. Si jamais il y a des signes de pollution, à ce moment-là, on va remonter au pollueur. Et donc, c'est une gestion croisée industrielle qui potentiellement pollue, et puis territoire qui va coupler la. Qui va avoir des indicateurs indépendants. Eh bien, c'est ce qu'il faudrait faire au niveau des écosystèmes, mais il y a énormément de travail. Ça suppose des filières qui doivent s'organiser. Vous savez aussi, je suppose que les industriels ont des capacités de pollution au croisement des. Comités de communes, au croisement des départements, au croisement des régions. Vous voyez, en termes d'administration, c'est difficile. Donc, difficile d'avoir une approche proche de la réalité et de dépasser les approches gestionnaires actuelles par une approche où la vache sphérique devient au centre du pilotage. Non seulement au centre en tant que vache sphérique, parce qu'on travaille sur des modèles, donc toujours idéalisés, mais des modèles qui évoluent et qui évoluent en s'améliorant dans le temps. Et ça, c'est la dimension importante qu'il faut retenir. Donc, premier axe de la solution, se souvenir que ce n'est pas une vache, c'est cela pour moi. Deuxième axe, et je pense que le premier axe ne peut pas survivre correctement sans le second. Parce qu'on est trop, piloté par des gestionnaires qui n'aiment pas les vraies vaches peut-être, ou qui ne vont pas, vouloir gérer les pattes des vaches, quoi, par exemple. Donc, je dirais que le volume, donc les représentations extrêmement, extrêmement idéalisées. La deuxième partie de cette solution, je crois que c'est qu'il faut avoir une posture de poète. Alors, ça choque. Mais je crois que il y a une dimension absolument essentielle qui fait que l'ingénierie de demain doit être couplée avec la poésie. Alors, la poésie au sens étymologiquement premier, et là je retourne vers Élodie, avec laquelle on a beaucoup parlé et qui m'a dit, au sens de création. Une création qui revient à l'origine, c'est-à-dire, pour moi, à l'origine, avant la construction des représentations. Donc il va se forcer à dépasser la vache sphérique pour rentrer en relation avec la vraie vache, au-delà des processus de modélisation. Donc il va rentrer en plein dans le chaos des problématiques existentielles, relationnelles, qu'on ne peut pas ne pas se poser dans le rapport au réel. Donc je vois la poésie comme une façon de nous rappeler le réel au-delà des simplifications qu'on ne peut pas ne pas utiliser pour une bonne gestion. Donc une démarche poétique orthogonalement orthogonale par rapport à la démarche scientifique, qui n'est pas rationnelle, qui n'est pas irrationnelle, mais qui est sans doute irrationnelle, où justement, et là je crois que c'est vraiment important par rapport à nos camarades ingénieurs, où les contradictions ont toute leur place et toute leur légitimité et sont et deviennent des instruments heuristiques où les multiples interprétations d'une même page sont un devoir où il faut travailler à partir de son propre contexte. Il faut exposer ses habitudes, exposer ses représentations pour accepter de se laisser déplacer par le texte. Et c'est ça l'enjeu de l'interprétation poétique, je pense, ici, afin de rentrer dans une relation qui dépasse la vache sphérique, une relation à la nature, à la fois pensable et impensable. Voilà. Merci.
On a voilà, le temps pour les questions. Marc,
Entre la raison solitaire qui effectivement était un petit peu un peu idéaliste et un peu voué à l'erreur, un peu autiste même, et alors l'autre cas c'était quoi? Oui, bah, effectivement, et le regard sur la réalité singulière, il y a la raison commune. Est-ce que tu pourrais parler un peu plus de ça, c'est-à-dire le rôle de l'intersubjectivité, le rôle de dans la juste représentation des choses? Est-ce que c'est un obstacle ou est-ce que c'est...
Ah, je pense que c'est... Je ne vois pas un seul modèle scientifique et sur les écosystèmes, par exemple, qui ne soit pas co-construit. Il n'y a pas une seule discipline qui permet de construire la chose. Entre les chimistes, les biologistes, les écologistes, les éco... je sais plus comment on les appelle, c'est les écologues. Et chacun, après, c'est extrêmement divers. Enfin, ça se co-construit. L'intérêt du modèle et d'une approche par les modèles, c'est aussi d'harmoniser et d'organiser la coordination des expertises. Mais après, c'est tout le processus de réinterrogation. Le fait est qu'aujourd'hui, ces expertises sont traduites sous forme de documents, documents PDF en général, et poser les unes à côté des autres. Donc c'est-à-dire que chacun... il y a tout un process qui fait qu'on demande une expertise, on l'a, on extrait un certain nombre de données, et puis on va prendre une autre expertise, on extrait un certain nombre de données, on compose une troisième expertise, puis on oublie les premières. Et donc il y a un gros problème de mise à jour des connaissances, et puis pour se rappeler le pourquoi cette donnée-là, qui va devenir, à un moment donné, qui était légitime, on dit un premier choix peut-être, qui était peut-être une erreur, c'est truffé d'erreurs en plus ces trucs-là, c'est des centaines et des milliers de pages, et puis qui va devenir bloquant. Et puis l'inspecteur va s'en saisir pour dire c'est ça que vous devez faire. L'inspecteur lui-même qui a du mal à comprendre ce qui se passe. Donc l'intersubjectivité, on est au cœur de cela, c'est ça, comme ça qu'on peut construire une objectivité, mais c'est une objectivité qui va reposer sur des processus de modélisation. Si on fait des modélisations numériques, on agrandit le risque de boîte noire, parce que le propre du numérique, ça va être de rajouter des calculs qui sont codés par des informaticiens qui ne connaissent pas la problématique de l'algorithme et qui ne peuvent difficilement être vérifiés par les experts qui ne connaissent pas l'algorithme. Et si on y ajoute l'intelligence artificielle, on va s'amuser encore. Plus, parce qu'on ne sait pas ce qu'apprend le logiciel pour définir ses choix. Voilà. Mais sans doute, c'est un passage obligé, mais c'est un passage à cadrer, justement en ayant chevillé au corps que le rapport au réel n'est pas uniquement à travers ce modèle et que il faut absolument garder raison gardée et altérité gardée. Voilà.
Dans ce que tu as dit, moi j'ai entendu en fait que quand tu parlais des chercheurs, tu dis en fait les chercheurs ils savent que leur modèle est faux et les gestionnaires ne le savent pas. Est-ce que en fait derrière ça il n'y a pas deux types de rapports différents au réel, à savoir un rapport qui est effectivement un rapport de connaissance qui, voilà, qui est en progrès, qui est conscient de ses limites et qui est dynamique, et d'autre part un rapport qui n'est pas un rapport de connaissance, mais qui est un rapport de pouvoir et qui précède le rapport de connaissance. C'est-à-dire qu'en fait le gestionnaire il a un rapport de pouvoir et pour rendre effectif son rapport de pouvoir, il va chercher des données, des modélisations, mais c'est le rapport de pouvoir qui est premier. Est-ce qu'au fond, la difficulté que tu soulèves, c'est pas celle de parvenir à articuler le savoir et le pouvoir d'une manière telle que le pouvoir n'écrase pas le savoir, ne produise pas une caricature de savoir. C'est comme s'il y avait un appel d'air qui disait... Ben, parce que je veux du pouvoir, alors donnez-moi les données. Donc on va produire des modélisations parce qu'il y a quelqu'un qui veut gérer et qui veut avoir un pouvoir d'action sur le réel.
Je pense qu'on peut le dire comme ça. Je ne le dirais pas exactement comme ça. D'abord, j'introduirais les ingénieurs, qui ne sont pas des chercheurs. Ça, c'est extrêmement important, je pense, de le garder en tête. C'est qu'un ingénieur trouve, un chercheur cherche. Même en physique. Il y a un chercheur... Et là, pour remettre en cause les théories et trouver autre chose. Donc s'il trouve une autre façon de se représenter le réel et d'agir sur le réel, c'est bien parce qu'il sait que son modèle initial ou sa représentation initiale est fausse. D'accord ? L'ingénieur, lui, va se saisir d'un certain nombre de savoirs pour trouver des solutions. Et je pense que la tendance spontanée de l'ingénieur, c'est de croire que s'il a trouvé la solution, si ça marche, c'est que c'est vrai. Il n'a pas tort non plus, d'ailleurs. Mais si ça marche, c'est que c'est vrai, ça n'épuise pas forcément le réel. Donc ça, troisième terme entre les gestionnaires et les chercheurs qui me semble absolument important, d'autant plus qu'on est quand même dans une société d'ingénieurs, beaucoup, et les ingénieurs, c'est eux qui beaucoup ont le pouvoir avec les gestionnaires, mais peut-être plus encore les ingénieurs. Et après, sur la gestion, il y a le problématique du pouvoir, donc qui est évidemment central dans toutes les relations humaines, mais je crois que c'est le problématique du critère qui est décisif, un critère que l'on peut accepter, l'acceptabilité du critère, ensemble. Voilà. Et que cette problématique du critère touche différents niveaux de la gestion. Hein, parce que il y a la gestion avec des prescriptions réglementaires, il y a la gestion au niveau du top management, il y a la gestion au niveau du middle management qui va définir les procédures, généralement réalisées par les ingénieurs. Et puis il y a la gestion au niveau des équipes de travail, et des opérateurs qui vont aussi avoir leur interprétation, aussi leurs habitudes, et même si ce n'est pas forcément des procédures écrites, leur bonne pratique. Voilà. Et à chaque fois, il faut des critères. Et il faut des critères aussi pour se défendre par rapport à une dimension de la gestion absolument essentielle, c'est le juridique. D'accord ? Si jamais j'explose ce que je tue tout le monde, mais que j'ai respecté la réglementation, tout va bien. Si jamais je tue une vache et que je n'ai pas respecté la réglementation, quelle horreur. Ouais. Donc, la notion de pouvoir, il ne faut pas qu'elle cache finalement les jeux d'acteurs. Normalement, le pouvoir est là comme une heuristique pour reconnaître les jeux d'acteurs, donc pour investiguer. Moi, je suis sociologue de formation aussi, donc... On va l'utiliser plutôt pour investiguer et révéler des problématiques d'acteurs avec des systèmes d'action concrets, on dit, et des stratégies individuelles ou collectives, mais surtout pas pour étouffer et pour dire, ben voilà, il y a la dimension pouvoir, dimension connaissance, et puis ce sont deux termes qui suffisent à penser la réalité, quoi. Et je pense qu'on peut, même si on peut aussi dire ça comme ça.
D'accord.
Est-ce qu'il n'y a pas un problème, du coup dans le fait même de la médiation, en fait, parce que même ton plan finalement est construit autour de un peu comme la médiation qui montre la chose médiatisée, mais en même temps qui peut l'oblitérer. Et là, ce serait un peu cette idée que les ingénieurs ils prennent pour matière première
ce qui en origine est secondaire dans la réalité, ce que les chercheurs modélisent, construisent, etc. Et que la médiation est prise pour ce qui est premier. Et je voulais savoir si c'était vraiment ça. Enfin, j'entendais ton exposé comme ça. Et du coup, qu'est-ce que devraient faire les ingénieurs? Est-ce qu'il faudrait qu'ils soient observateurs eux-mêmes directs? Est-ce que ce serait une solution?
Ben, je pense qu'il faut aider les ingénieurs et les gestionnaires avec les outils numériques qui permettent de gérer plus de données, plus d'informations, et grâce à cela, d'être au plus près, finalement, de la vraie connaissance. Mais il faut aussi, et ça c'est mon deuxième point, et je crois que c'est absolument capital, même pour ce premier point, que les philosophes et les littéraires aient beaucoup plus de poids, et que leur discours ne soit pas entendu comme de la culture générale, mais comme une connaissance du réel, qui est essentielle pour bien piloter les outils de gestion et les connaissances proposées, également vraies, mais également vraies des ingénieurs. Et je pense que c'est ce système de réflexion à biface qui peut permettre. Alors pourquoi cette poésie qui revient sur les problématiques existentielles de manière systématique et qui accepte le chaos, pourquoi ça me paraît si important? C'est parce que c'est justement en entreprise ce qui est refusé. Parce que ça prend du temps, d'abord. Les investissements, transactions, alors que tout le monde dit c'est important, il faut se parler, bah, c'est très difficile, parce que c'est coûteux. Et parce que si t'es pas cohérent, c'est que t'as faux. Alors que peut-être que tu es en train de révéler une problématique. Le plus simple à exprimer, c'est ce qui est déjà connu. Donc autant rester dans ce qui est déjà connu. Donc il y a la force de la connaissance préexistante et partagée par un ensemble d'acteurs qui prend le pas sur le souci du réel ou la capacité même à exprimer la difficulté de dire le réel qui pourtant viendrait relativiser et enrichir la logique de gestion. Et par contre, il y a un défi là, il y a un défi parce que dans le monde des ingénieurs, la poésie, c'est la culture pour apprendre à écrire. Ça n'a rien à voir. C'est plutôt de l'ordre de la confiture que de l'ordre du vrai. Alors que et cette session, on n'a pas parlé beaucoup d'ingénierie. Pourtant, on a parlé du réel. Alors pourquoi ?
J'ai une question. Sur l'informatique, alors avant, en science, quand j'étais avec un collègue qui travaillait sur les exoplanètes, le problème du numérique, c'est qu'on sait que ça donne toujours des résultats, mais la difficulté, c'est d'interpréter les résultats. Et c'est vrai que la chance de la physique, c'est d'avoir une approche analytique, donc théorique pure, qui donne des résultats indépendamment du numérique et qui permet de calibrer les programmes. Il faut absolument qu'on retrouve exactement ce que l'on peut calculer d'une façon analytique avant de pouvoir dire qu'on va explorer numériquement l'inconnu. Bon. Et donc ça permet quand même d'éclairer le numérique à la lumière d'un regard théorique. Mmh. J'ai l'impression que, avec la question des écosystèmes, etc., c'est que cet aspect théorique n'est pas réellement présent, l'équivalent d'analytique en physique, et que le développement du numérique, en fait, est un peu comme un substitut, finalement, à une absence de théorie, avec le problème. Il y a eu un article dans une revue américaine, je crois que c'était en 2009, la mort de la théorie. C'est que le développement du numérique, du big data et du traitement, j'allais dire quasiment automatique de l'information, finalement finissent par aboutir à ce qu'on appelle, on a des corrélations, on n'a pas besoin de causalité, on n'a pas besoin de schémas théoriques en fond qui permettent, un peu comme des fictions, mais de faire un tri dans du divers. Là, on a du divers pur, et le traitement automatique de l'information permet de dégager, au fond, des lignes de force. Et comme c'est extrêmement efficace, vu le nombre de données qui sont traitées, j'allais dire à l'aveugle, eh bien, au fond, ça suffit. Et donc, au fond, la théorie, on n'en a plus besoin. Et est-ce que le problème, justement, de, avec le risque de justement d'aller chercher dans l'informatique de l'aide, c'est que on se, l'exigence théorique, au fond, bah, est abandonnée, ce qui rend c'est peut-être aussi difficile le dialogue avec, par exemple, les philosophes, ou même les littéraires, dans le sens où justement il y a toujours ce côté fictionnel que l'on peut avoir dans notre façon d'aborder les choses, alors que là, vous allez vous retrouver avec une énorme avec des données gigantesques d'informations, dont le traitement ne peut être que purement informatisé, mais qui va finalement aboutir à donner des corrélations, qui n'invite en aucun cas à un regard théorique finalement. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là de se satisfaire simplement que du numérique en fait?
Alors ça dépend, je pense, énormément du domaine, hein, des cas d'application. Il y a beaucoup de cas sur lesquels on n'a pas de retour d'expérience, ou très peu de données, donc on ne risque pas d'avoir ce problème-là. Dans le domaine du risque industriel et même dans le domaine de l'environnement, presque que je sais, c'est on a un déficit de données. D'accord. Donc on est plus sur des approches de modélisation, avec des essais, des expérimentations pour essayer de valider les modèles, mais on est plus comme ça. La difficulté après pour la gestion, c'est de faire le lien entre telle vanne et tel phénomène. Et c'est là qu'il y a besoin d'articuler les modèles entre eux. Enfin, voilà. C'est surtout ça dont je parle. Mais je comprends très bien ce que tu dis. C'est vrai que ça serait un risque important.
Une question par rapport au fait qu'on a créé un brigade avec musique pendant plusieurs jours. Là. Il y avait le livre que vous avez regardé. Je pense qu'il y a quand même peut-être une question comme ça quand tu parles de poésie. C'est pas. On vit dans un monde où règne la quantité et plus la qualité. Et ce monde, j'ai l'impression qu'il va de plus en plus vers ce règne de la quantité. Comme disait Eric, plus recueil de données. On arrive maintenant même à ne plus faire de relation de cause à effet, comme tu as dit, entre les données. On est dans une science qui ne fait plus que recueillir des données, des corrélations, qui n'établit même plus de sens dans ces corrélations. On arrive à un tel règne de la quantité qu'en fait, on devient nous-mêmes des objets de cette quantité. Et déjà par là, c'est que je me dis qu'en fait, on a été si loin que ça semble irrémédiable. Irréversible, je dirais plutôt.
Moi, je pense pas que ce soit là, mais encore.
Quand tu as dit les vaches sphériques, je me suis dit, le problème c'est qu'on est dans un monde où la carte devient le territoire. C'est-à-dire, on fait vraiment des œufs carrés, on va vraiment faire des vaches sphériques.
Et de la viande.
Et en fait, on se rend compte qu'en fait, nous-mêmes, on va finalement devenir de la viande, comme dans le film Baptiste, où les extraterrestres vendaient les hommes dans un. Enfin, la Terre devenait un McDo géant, en fait, pour eux. Et en fait, on a l'impression, oui, qu'on est dans l'irréversible, en fait, que c'est une sorte de dynamique. On se demande même, les enfants qui vont naître, ils seront tellement, comme tu dis, dans un monde séparé, virtualisé, qu'ils ne sauront même plus ce qu'est la réalité dont tu parlais. Et ça, ça je me dis, c'est absolument terrifiant, mais qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, j'ai l'impression que c'est...
Ouais, je pense qu'il ne faut pas prendre...
Le problème est né, il est en train de nous dévorer, quoi, comme dans l'histoire.
Il ne faut pas prendre l'enjeu de la théorie à la légère, quoi. C'est quoi un écosystème?
Oui, voilà, je pense que c'est...
Il n'y a aucun travail sur ce que c'est que la nature en soi. Or, on est capable de répondre si on philosophe sérieusement, quoi. Et ça renvoie tout de suite à c'est quoi un territoire administratif, c'est quoi un écosystème, qu'est-ce qu'on gère, est-ce que la vie, on est là pour l'accompagner ou pas? On ne répond pas à ces questions. Or, on peut répondre. Moi, mon site internet, je l'ai appelé Ecolothèque il y a longtemps, ça fait un peu, mais bon, l'idée c'est l'ingénierie écologique. Mais il y a des choses qui ont un petit peu avancé, mais ça implique de mettre des hommes, et puis des hommes directement au contact, la main dedans. Donc voilà, des paysans écolos, des écolos paysans, si ça marche. C'est. Oui, voilà, qu'est-ce qu'on fait de la terre, quoi. Parce que, bon, il y a bien polluer, dépolluer, mais peut-être qu'on peut développer, ça se fait un petit peu. Les plantes et accompagner les écosystèmes pour augmenter leur capacité en bio. Donc il y a la biodégradation, mais il y a aussi la bioremédiation, mais il y avait Spiros Agathos, une sommité mondiale dans ces questions-là parle aussi de bio-augmentation, quoi. Mais alors derrière, il y a un concept de nature, quoi, à penser, quoi. C'est-à-dire que, bon, ben, les ingénieurs, c'est bien beau, les spécialistes de l'écologie au sens moderne, où on quantifie, c'est bien beau aussi, mais en fait, philosophiquement, ça vient après, quoi. Alors ça vient non seulement après une réflexion générale sur la nature, mais ça vient aussi après, c'était la question de Marc, un peu, le sens commun, quoi. Si on n'a pas de rapport entier humain à la nature, la question de la poésie, faut pas rêver, quoi. La poésie, elle va peut-être être abstraite, entre guillemets. On a de la poésie un peu paysanne, je sais pas, Henri Pourra ou d'autres, qui disent des choses sur la nature concrète, comment elle fonctionne. On a les agronomes latins qui savaient déjà voir, étudier avec des moyens non, enfin, sans instruments, hein, sans médiation, parce qu'on est beaucoup dans les instruments pour recueillir les données, mais on peut peut-être les recueillir sans médiation, en partie. Donc, goûter la terre pour voir si elle est propice à telle ou telle plante, hein, des choses comme ça. Donc, quand tu dis qu'on est de plus en plus séparé de la nature, voilà, c'est quoi la nature, mais c'est, la séparation commence là, quoi, c'est qu'on refuse d'affronter la nature de manière, je dirais, plus animale, quoi.
Tu vois, Yvan, on donne pas aux gens la possibilité. Je veux dire, l'homme qu'on a créé, c'est un homme de la quantité, pas un homme de la qualité. On peut pas demander à ce qui est quantité de devenir qualité.
Mais c'est clair.
Et plus on arrive dans la quantité, c'est-à-dire, quand Guillaume disait, il faut jamais oublier qu'une statistique, enfin, que c'est les individus qui font les statistiques et pas les statistiques les individus. Et le problème, c'est que de plus en plus, les gens n'arrivent plus à penser autrement qu'en étant une statistique. Ils se pensent comme une statistique.
Et Zarathustra descend de la montagne. Citadin décadent, modalité abstraite, c'est quand même
la question. C'est la question, comment on peut faire que que la carte ne devienne pas le territoire.
La campagne, disait Marie-Dominique Philippe, ou la nature, au sens biologique, parle encore de l'au-delà de l'homme, l'altérité dont tu parles. Tandis que la ville, plus elle devient grande, ne parle que de l'homme à travers ce qu'il a produit. Et donc, on a toute une société qui, voilà, on peut se demander si c'est pas, si c'est pas irréversible, quoi. On a tellement pris l'habitude de vouloir être nourri par des médiations et de pas travailler avec nos mains directement.
Tu distingues ingénieur et chercheur. Je vois très bien ce que tu veux dire. Mais est-ce que finalement, cette distinction, bon, on voit bien que quand on a des élèves, la plupart rêvent d'être ingénieurs, quasiment aucun d'être chercheurs, vraiment. Et est-ce que cette distinction, est-ce qu'elle n'est pas un peu déjà. Où sont les chercheurs? On sent bien que si tu veux, il y a de plus en plus que des ingénieurs, il n'y a pas besoin d'être chercheur en fait. Tu vois, je veux dire, on a l'impression que. Comme tu dis, autant, les ingénieurs, au fond, est-ce qu'ils sont un peu les rois, et puis on fabrique quelque chose, on ne sait pas trop ce qu'on fait, mais ce n'est pas grave. Mais de toute façon, comme ça va avoir une certaine autonomie, ça va bien à un moment donné, en fonctionnant, trouver des solutions finalement. Pas la peine de faire appel à des gens qui vont essayer de penser et qui.
Et les chercheurs travaillent pour les entreprises en général, enfin, très souvent.
Oui, de plus en plus, souvent, les entreprises privées.
Quelle est la part des chercheurs?
Des chercheurs qui trouvent.
Des chercheurs. Et leur relation, est-ce qu'ils sont une autorité vis-à-vis des ingénieurs ou pas du tout en fait? Alors, pour reprendre la question qu'on avait.
Moi, je parlerai pas forcément de la population chercheur, mais la posture chercheur. La posture, ouais. Et la posture, elle, a une autorité, mais n'est pas forcément connue et partagée par l'ingénieur. C'est ça qui est. Or, la posture est importante. Et la posture nous ramène, je pense, à nos questions philosophiques. Je pense qu'on est assez proche d'un chercheur assez loin d'un ingénieur. Et que le chercheur va. Alors après, il y a des ingénieurs évidemment très polyvalents, flexibles, hein. On ne va pas du tout faire de généralité, loin de là. Hein. Et ils sont très, très brillants. Mais cependant, et je pense que peut-être ça vient dès la sixième, quand on dit les mathématiques, ça tombe juste, donc c'est vrai. Ah là, ça c'est mauvais. Hein. Ça c'est mauvais.
Et Simone Veil, une attaque. plus lourde dans la veine de ce que tu dis. Si les jeunes, les étudiants veulent faire ingénieur ou même peut-être des études scientifiques de type physico-mathématique, c'est parce que c'est vendeur. On rêve des applications derrière. Et si jamais il n'y avait plus d'applications rentables, plus personne, plus de familles, une grande majorité ne mettrait pas des étudiants dans ces filières. Donc on est dans une vaste hypocrisie, quoi. La recherche au sens théorétique, c'est pas philistin, quoi.
Et quand même, tout à l'heure, Yvan te demandait ce que c'était qu'un écosystème. Je suis un peu béotien, comment on le définit? Est-ce qu'il y a le mot nature dedans, finalement?
Nous, on parle pas de nature, on parle des écosystèmes. Je ne sais pas ce que c'est.
Ah mince.
Moi, je suis quelqu'un de la ville.
Éco, moi, je
n'aime pas goûter la terre.
Foyer,
faut pas déconner.
Mais système, c'est ça qui me gêne le plus.
Mais c'est qu'il y a une pensée systémique des relations entre les espèces et à la fois l'animal et puis le végétal.
C'est une
relation
de dépendance, d'interdépendance.
Oui, voilà, et qui s'auto-entretient, quoi. Et qui a une capacité d'autonomie.
Qui forme une unité. Des éléments dans un environnement, végétaux, minéraux, enfin la faune, la flore, et en fait, ils sont dans des relations de dépendance mutuelle. Susceptible de former une unité qui fait qu'il peut y avoir une sorte de frontière entre tel territoire dans lequel on va trouver tel écosystème
et l'autre
territoire. Et le problème, c'est que si tu tues un des éléments, tu casses le système. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est tellement varié et diversifié que c'est vraiment très complexe.
C'est pas très intéressant, mais c'est cette histoire de chercheur et d'ingénieur. Moi, je suis dans un établissement dans lequel il y a des classes prépa. L'ensemble des élèves de classe prépa scientifique, et donc je pense qu'il y en a au moins 6 ou 7, entrent dans une école d'ingénieurs. Il n'y a pas, entre guillemets, de déchets au sens où... Voilà, au sens où un élève qui rentre dans une classe prépa scientifique aujourd'hui, il est assuré de trouver une école d'ingénieurs qui va le former. Donc ça veut dire que je ne sais pas combien il y a de chercheurs qui sortent en termes de promotion en France, mais des ingénieurs, il y en a beaucoup. Donc vous voyez, un lycée à Bordeaux, mais je pense que c'est le cas dans à peu près tous les... Il y a une inflation du nombre d'écoles d'ingénieurs, donc il y a des écoles d'ingénieurs qui sont là et qui attendent que les élèves de classe prépa sortent. Et ils ont quasiment tous, sauf ceux qui abandonnent en cours de route, ils finissent tous ingénieurs. Donc
pas des
en termes de quantité. Si on regarde... une hypocagne, une cagne, et qu'on compare, on va bien voir que qui sort chez, on a des profs après une hypocagne, on a peut-être des journalistes, des gens comme ça. Peut-être des écoles de commerce maintenant, mais...
Si on peut se demander, je dis peut-être une bêtise, je ne sais pas, mais parce qu'on ne peut pas se demander que si on ne vit pas l'humiliation terminale de l'artisan, de toutes ses forces. C'est-à-dire de celui qui crée, qui conçoit, qui construit quelque chose, qui le pense avec une tradition déterminée, à laquelle il apporte son propre ouvrage, sa propre pierre. En fait, ce monde-là est en train de mourir devant nos yeux, de s'affaisser totalement, et on rentre dans le règne de la quantité. Et en réalité, c'est quand même une sorte de golem, quoi. Donc,
et juste...
Non, j'ai pas...
Juste pour ajouter deux remarques, excuse-moi Marc, je t'interromps, mais... ça me faisait penser quand même à ce qu'on disait hier aussi pour l'étymologie d'écosystème avec oikos, mais il y avait aussi le foyer quand même, enfin, la place de l'humain dans sa nature, c'est pas neutre quand même.
Écologie, économie, c'est le même mot.
Hein. Mais voilà, c'est ça. Et donc quand même, finalement, c'est quand même vu par l'homme, ou en tout cas avec une empreinte, un regard
grosse,
humain.
Grosse question. Donc nous, on est institut
les sciences humaines, pour l'environnement, c'est un peu ton sous-titre.
Mais on s'occupe que du sanitaire.
D'accord.
Les risques, c'est une notion anthropocentrée.
Ça dépend de l'enjeu, quoi. Mais en tout cas, c'est une grosse question. Nous, on est totalement anthropocentré et on s'intéresse que du risque sanitaire. C'est-à-dire, si on s'intéresse à l'environnement, mis à part 3 personnes peut-être là où je travaille, c'est uniquement par rapport aux conséquences sanitaires. Ça évolue, sa loi a évolué de toute façon, parce que c'est pas tenable très, très longtemps, je pense, dans les contextes actuels, mais c'est la réalité.
Et le point numéro 2, vous êtes peut-être allé vous promener au fond du jardin, il y en a qui l'ont fait. Vous avez vu que ça avait changé complètement, parce qu'il y a eu des grosses inondations il y a 2 ans maintenant, Et le petit torrent là qui passe juste au pied avait tout emporté, ça avait été inondé. Et ils ont en quelque sorte fait une tranchée dans la montagne, vous irez voir, en termes de nature. Moi, ça me choque un peu quand même, avec des grosses canalisations, des gros blocs de pierre, enfin, c'est titanesque. Tu as pu garer ta voiture parce qu'ils ont fait aussi un gros chemin empierré au milieu de la bonne vieille prairie en herbe. Ils ont mis ça. Ça fait une sorte de tranchée d'ailleurs. Et je suis tombé par hasard sur le PPR de la commune d'Arras-Marsous, plan de prévention des risques naturels prévisibles.
PPRN.
Ouais, c'est ça. Mais pardon, je
suis mal. Par hasard.
Par hasard, parce que je cherchais l'A1, Poilin, etc. Et je suis tombé sur ça. Parce qu'il y a un petit ruisseau qui s'appelle le La-Une, autour de Poilin. Il y en a qui ils ont des noms assez amusants, La-Une comme la source, et le Ho comme le Fou. Parce que c'est un torrent qui devient tout fou, en quelque sorte, il sort de son lit en permanence. Alors l'étude date de 2014, parce qu'il y avait eu deux inondations en 2006 et 2009. Alors ce qui est génial, c'est que moi j'ai l'impression qu'ils connaissent quand même beaucoup de choses, parce qu'il y a des incertitudes, mais là, quand je lis ce rapport, je trouve que c'est... Enfin, quand tu le regardes, tu sais qu'il va y avoir de... Ils te font la fréquence des inondations, je ne sais plus, alors attends, là je viens de regarder, je passais... Une en 1975, 1914, 1940, 50, 79, 92, 93, 2000, 2003, 2006, 2009. Et alors ils disent, on a une base de données avec plein de photos, enfin ils ont l'air de tout savoir, ils nous montrent les photos. Et regardez, c'est bête, j'ai enlevé moi-même, enfin ils nous montrent les photos en nous disant, regardez les gros blocs que ça charrie, ça éventre le truc. Et malgré tout, enfin, ils construisent partout, n'importe où, il n'y a plus de prairies. Ils donnent les permis, j'ai l'impression, comme ça. Donc, il y a quand même... J'ai l'impression qu'entre la connaissance du risque presque objective, hein, où là, il y a des incertitudes, mais enfin, limitées, je trouve, et la prise de risque qu'on prend, il y a un écart, je trouve. Alors, c'est peut-être le côté... C'est peut-être moins les chercheurs, les ingénieurs, que là, plutôt, les politiques, ceux qui prennent les décisions. Mais il y a quand même, je trouve, aussi... quelque chose qui fait que on est déresponsabilisé parce qu'on se dit c'est bon, on a fait l'étude.
Mais tu sais,
elle date de 2014 et il y a eu à nouveau des inondations depuis, alors qu'on avait tout prévu.
J'ai confiance dans les études, mais c'est pas parce qu'il y a un chiffre qu'il faut avoir confiance. Il y a des chiffres de probabilité de rupture des flexibles dans les sites industriels, et il y a des bases de données, on a des bases de données. Et quelqu'un, à force d'utiliser la donnée de la probabilité de rupture, il s'est dit, mais d'où vient cette donnée? Donc, elle a été voir la base de données. Ah ben non, ça vient d'une autre base de données. Enfin bref, il y a eu tout un travail, et en fait, c'était la probabilité de rupture des flexibles de machines à laver. Il n'y a rien à voir avec la tuyauterie des industriels. Mais d'accord. C'était la seule donnée disponible. Donc, on a la donnée. Ça fait quand même sérieux. Mais en fait, beaucoup de données sont faites comme ça. Après, on fait des calculs précis, mais avec des données initiales qui sont quand même largement fausses. Il faut se méfier. Il y a beaucoup de connaissances à générer et à améliorer. Et sur les écosystèmes, c'est encore pire.